Alors salut, salut les gars.
Salut.
Donc bienvenue sur ce premier podcast Sonic, donc où on parle de musique et pas de jeux vidéo.
Ah, pour Sonic,
Sonic.
Ça sent la deuxième prise là, c'est bien. Bon, du coup, alors bienvenue, merci de nous accueillir dans votre local de musique, c'est cool, à Sion.
Pas de
Donc
souci.
vous êtes le Compressor Experiment, The Compressor Experiment,
C'est ça.
dit le Comp. C'est ça.
Pour les intimes.
Donc on est ici avec Fantin, Jay
Salut.
et David.
Hello. C'est ça.
Salut les gars. Donc est-ce que vous pouvez expliquer rapidement un peu la composition du groupe, tout ça? Là vous êtes trois. Dans le groupe normalement vous êtes quatre, il me
Et
semble.
ouais, bah, y a Tom, le bassiste, qui est un peu timide. Il est tout nouveau, alors il n'a pas osé venir et on le salue quand même. Salut Tom.
Salut.
Alors, le Comp, c'est un groupe de rock instrumental, un peu un mix entre du rock progressif, un peu métal aussi, du stoner et plus récemment du post-rock. Je crois que ça fait un peu le tour. Voilà, donc. Quoi dire de plus? Ça a commencé un peu comme un groupe de jam. Donc, au départ, on était avec Jay, moi et un ancien guitariste qui s'appelle Lilian. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu transformé avec des structures un peu plus fixées. Et ce qui est marrant, c'est qu'au départ, c'était prévu comme un groupe qui ferait de la musique de Pink Floyd en jazzy. Et en fait, c'est pas du tout le cas maintenant. Donc, mais voilà, ça a été assez naturel comme transformation. On a joué un bon moment avec une bassiste qui s'appelle Sonia, qu'on salue également. Salut Sonia.
Salut.
Et avec ce line-up là de 4 personnes, on a enregistré un premier album qui s'appelle 12. Et les choses ont changé, les fleurs ont fané. Et ainsi, David a remplacé Lilian, c'était il y a un an à peu près, et Thomas a remplacé Sonia il y a quelques mois, enfin, ouais, plus que quelques mois, quoi,
Début
enfin, début d'année, ouais, c'était ça, début
Ok, donc
d'année
c'est
2017.
un line-up assez frais encore.
C'est ça, c'est
Enfin,
ça.
une personne est assez fraîche en tout cas.
Oui.
Et du coup, on est sur une composition assez classique. C'est quoi? Guitare, basse, batterie, c'est ça?
Ouais, deux guitares.
Ouais.
Une basse et une batterie. Voilà. Donc il y a David qui fait la guitare, j'en fais aussi. Thomas qui n'est pas là, mais qui fait de la guitare aussi. Pardon, de la basse. Et Tonton Jay qui est à la
À la
batterie.
batterie.
Et du coup, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de voix, c'est ça?
C'est ça,
C'est de l'instrumental.
C'était un peu c'est un peu, je pense, le challenge principal du groupe. Enfin, on n'a pas choisi de faire de la musique instrumentale. Pas parce qu'on sait pas chanter, ce qui est un peu vrai, je pense. Mais c'était pas, c'était, on n'a jamais cherché à avoir quelque chose de vocal. Et c'est tout le challenge, en fait, de trouver un équilibre sans chant. Et c'est pour ça que les structures peuvent sembler un peu compliquées.
Ok, mais c'était pas une décision donc à la base de dire on va faire sans voix, c'est venu un peu comme ça.
Ouais, je pense que ça a découlé un peu de cette idée
C'est venu naturellement.
de jam qui était au départ, et voilà, on a structuré un peu, puis on s'est dit on n'a jamais trouvé l'utilité d'avoir de la voix.
Ok,
Voilà.
c'est cool. Puis du coup, au niveau donc des influences, je pense que vous avez tous un peu vos propres influences. Je sais pas si vous voulez en parler un peu
Ouais.
brièvement,
David,
chacun un
qu'est-ce
peu.
que tu...
Oui, alors, bon, moi je suis clairement l'élément métal, je pense, du groupe. Je suis vraiment dans des metal jam, tout un petit peu agressif.
Genre Meshuggah.
Meshuggah, oui, North Lane, tous ces genres de groupes qui tapent bien
Ouais.
les pulsations. Et ouais, j'aime bien les trucs alambiqués aussi. Et là, dans The Comp, justement, c'est ça aussi que j'ai retrouvé qui est super sympa, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'ambiances différentes, et c'est très intéressant pour développer plusieurs styles, quoi, justement. Pas que ce qu'on écoute ou ce qu'on aime, parce qu'on ne fait pas forcément ce qu'on écoute ou ce qu'on aime.
Ouais, effectivement, ouais.
C'est ça.
Alors moi je suis plutôt l'élément old school de la rythmique. Donc clairement le rock des années 70 ou le début du métal, Black Sabbath, Grand Funk, Led Zeppelin.
Je me disais avec ton t-shirt.
Exactement. Et voilà. Ouais.
Pas passé à côté, effectivement. Et puis, aussi un grand fan de rock progressif, je suis très, 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 très large aussi. Mmh. Et puis, là aussi, le côté instrumental, il est vraiment intéressant parce qu'il n'y a rien qui se répète. Sinon, t'es vite chiant sans chanteur, justement. Puis c'est ça que j'aime vraiment dans le comp.
Voilà. Et puis, je pense que j'influence le plus parce que c'est une grande partie moi qui écrit. Mais on reviendra plus tard, il y a quand même des choses que je pensais pas, qui, en réécoutant un peu d'une oreille extérieure, qui apparaissent comme influence majeure, et c'est assez marrant. Du coup, moi j'ai été nourri à Iron Maiden quand j'étais gosse, à peu près, on peut dire ça. Donc c'est pas franchement l'influence principale, mais je pense dans le sens de la mélodie et puis dans l'incapacité à faire autre chose que des gammes pentatoniques, ça se ressent assez pas mal. Après, ouais, je suis un gros gros fan de rock progressif, donc je pense que ça c'est un peu l'influence qui est la plus marquante, je pense en termes de structure par exemple, et aussi dans les plus vieilles choses qu'on a faites, notamment sur 12, notre premier album. Bah, y a une chanson comme Bronco qui est une chanson de 17 minutes et qui prend un peu tous les codes du rock progressif, des répétitions de thèmes, un thème marquant, des parties un peu plus pétage de plomb rythmique, des parties un peu plus pouette-pouette qu'on a un peu abandonné. Il y a ça. Récemment, il y a pas mal d'influences post-rock, comme je le disais avant. J'en écoute vraiment une tonne. Et puis dans les influences un peu plus cachées, qui sont d'une manière un peu ninja comme ça, il y a le stoner. On a vraiment une grosse base stoner que je pensais même pas avoir, et puis c'est vrai qu'on m'a dit « Ah, vous êtes un groupe de stoner ». On a eu plusieurs chroniques, groupe de stoner, ça venait avant groupe de rock progressif. Et ouais, si on prend 12 par exemple, pour revenir encore sur ça, effectivement, il y a quand même une grosse base de stoner, mais je pense que c'est plus monté assez naturellement. Exactement. Aussi. C'est facile à faire en fait, du stoner, est-ce qu'on le fait bien ou pas. Non, je sais pas, mais ouais, c'est un peu ce côté jam, je pense, c'est un peu l'héritage du début du groupe qui est revenu comme ça.
Du coup, c'est une espèce de stoner qui arrivait naturellement sans non plus s'imposer, quoi.
C'est ça, ouais, vraiment.
Excellent, donc 12, ça c'est votre premier, votre premier album.
Exact.
Et donc, du coup, le seul actuellement.
Oui.
Vous êtes en train de préparer un autre album, ça on va en reparler un peu plus tard.
Oui.
Qui est axé justement sur le projet que vous avez actuellement. Donc ce projet, c'est en rapport avec le cinéma. Mm-hmm. C'est juste ?
C'est juste, ouais. C'est des images qui bougent.
Des images qui bougent.
Ça.
24 images par seconde, tout ça.
C'est ça, ouais.
Donc du coup, vous êtes parti sur, tu me redis si je me trompe, mais donc c'est en gros... jouer sur le film 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick.
Ouais, alors c'est plutôt The Artist qu'on a repris. Non, c'est effectivement 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick.
Et du coup, l'idée là derrière, c'était plus d'utiliser le film comme vijing quelque part, ou au contraire d'utiliser la musique comme BO du film.
Alors, je pense que le projet, il est venu aussi assez naturellement. C'était lié au fait que, dès nos premiers concerts, on avait des projections vidéo. C'est quelque chose qui est important pour nous. Ça fait un peu partie d'identité du groupe, d'avoir un aspect visuel assez fort. Et c'est cette idée de confondre un peu la vidéo et la musique. Pour nous, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai quand même l'impression que c'est... Finalement, le groupe, il est pas si important que ça. Si on est un peu en retrait sur scène, c'est pas grave, au contraire, c'est plus d'offrir quelque chose au spectateur qui peut soit se perdre dans les projections, soit se concentrer sur la musique, c'est plus avoir une espèce d'expérience globale comme ça. Et en fait, ce projet de ciné-concert, il est venu en collaboration avec le Kremlin, c'est une salle à Monthey. On salue le Kremlin aussi. Donc une salle de concert qui était un ancien cinéma, mais ils ont quand même gardé ce côté cinéma avec un vrai écran. Et on avait déjà joué là-bas en 2015, je crois. Et la collaboration s'était vraiment bien passée. Et en rediscutant un peu, l'idée est venue de créer pour le Kremlin un ciné-concert. Et voilà, on avait carte blanche. On a choisi 2001 parce que c'est vraiment un super film. Voilà, les thèmes abordés, tout ça, je pourrais continuer à
faire semblant. Parler du film pendant.
Voilà, je pourrais continuer à faire semblant de dire des choses intelligentes. Mais en fait, ce qui était surtout pratique, c'est que le film a beaucoup de musique et que je pense pour le 99% du temps. La musique n'est jamais en même temps que les dialogues. Donc juste en termes de technique, c'était super simple de couper la musique pendant qu'il y avait la musique du film normalement, de jouer par-dessus à ce moment-là, et de laisser les dialogues originaux. Donc l'œuvre, elle est assez intacte, on n'a pas vraiment fait de montage. En tout cas, le film, la durée du film est exactement la même, il n'y a pas eu du tout de montage, à part un montage sonore. Pour pouvoir placer notre musique dessus.
Et du coup, vous êtes dit, tiens, on va remplacer Strauss et Pink Floyd à la volée, comme ça.
Y a du Pink Floyd ?
Ouais, il me semble qu'il doit avoir une partie psyché des causes quand il fait son voyage spatio-temporel à la fin.
Ok.
D'accord.
Il me semble que c'est du Echoes. Après, peut-être que je divague, mais je crois bien.
Ok. Ouais, ça n'a jamais été le but de reprendre en rock progressif le Beau Danube Bleu, Also Sprach, Zara, Toustra, je ne sais pas où ils sont les TLR. Ouais, non, c'est vraiment une bande-son qui a été recomposée à 100%. Il y a peut-être des parties qui refont penser aux œuvres classiques, mais ça s'arrête là, quoi. C'est vraiment from scratch.
Vous avez essayé vraiment de partir de zéro et de pas vous faire influencer par la BO qui existe déjà.
Ouais.
Moi, je pense qu'il y a de toute façon des influences inconscientes qui remontent ou
par rapport aux images peut-être.
Ouais. Oui, alors je pense
influencer plus ou moins la même chose par les images.
Voilà, effectivement.
Ça serait peut-être le lien avec Strauss et compagnie, mais sinon c'est vrai que c'est resté une interprétation très compienne et très libre.
Ok, c'est cool d'arriver aussi à se libérer de ces contraintes-là, enfin de ces influences-là, et puis à se dire, bon, maintenant on repart, on reprend le truc de zéro, on repart nous, et puis et on verra ce que ça donne, quoi.
Exactement.
Ouais. C'est intéressant.
C'était assez vertigineux au départ, parce qu'il y a quand même ce truc-là. Voilà, c'est une œuvre ultra complète, 2001, et c'est difficile un peu de se soustraire à la vision du réalisateur, mais ça s'est fait assez naturellement. Puis cette contrainte était vraiment. Ça a été assez créateur. Je pense que ces chansons-là n'auraient pas pu être composées, enfin, par nous, on n'aurait pas pu ressortir ces chansons-là si on n'avait pas eu ce cadre assez restreint, voilà, ce passage-là dure tant de temps, et ouais, je crois qu'on est assez content du résultat final.
Ouais, c'est un sacré challenge de pouvoir justement mettre toutes les parties au bon moment, au bon endroit, que ça joue aussi sur la musique, sur le film.
Ouais. Donc on peut dire que le film a aussi, lui, en tant que film, participé à écrire la musique, quoi.
Ah oui, on peut dire ça. Ouais, on peut dire ça. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais avant, Jay, je pense que c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent se ressentir comme « Ah ouais, ça ressemble à ce passage, à cette musique-là du film », mais c'est basé sur les mêmes images, en fait, et
donc sur l'ambiance du film.
Ouais, je trouve ça assez cool comme lien.
Ok, je pense que là on peut passer à notre intermède musical. Donc c'est un morceau qui a été choisi par l'absent de l'équipe.
Voilà.
Est-ce que quelqu'un peut juste dire un mot en vite fait de ce qu'on va écouter?
Alors encore une fois, big up à Thomas qui n'est pas là. Et donc il a choisi un morceau de Tosca, qui est aussi un groupe de rock progressif instrumental, qui ont autrement plus de talent que nous, je pense, en tout cas en termes techniques. C'est pas la même confiture. Et le morceau s'appelle Illumo, si je ne dis pas de bêtises.
Excellent, alors on écoute ça maintenant. Voilà, donc c'était Tosca et c'était cool. Merci à Tom qui apparemment a une belle barbe et oui. Il faut le dire.
Oui, il faut oui,
le
oui, dire. Oui,
je le connais pas donc je
il en prend soin et ça se voit. Vraiment.
C'est bien. Donc merci à lui pour cette super découverte. Donc maintenant je vais vous poser une petite question un peu merdique. Donc vu que vous avez bossé sur 2001, est-ce que vous pouvez m'expliquer la fin du film?
Ouais, c'est un peu complexe. Hein. C'est effectivement assez complexe. Je pense qu'on peut y aller tous avec nos interprétations. Je pense qu'il faut commencer avec le début du film. Donc ça commence avec des singes, on est tous d'accord là-dessus. C'est ouais. Tangible,
c'est
ça.
Bien
qui découvre un monolithe un beau matin, d'été, je suppose. Et qui les pousse en fait à évoluer, à se transformer en ce qu'on est à l'heure actuelle, en 2001. Hein. Il y a un beau saut dans le film. Et cette évolution permet de découvrir un deuxième monolithe sur la Lune, grâce à la conquête spatiale, qui est, c'est dans le titre du film. Et ce deuxième monolithe les amène vers Jupiter, où ils trouveront un troisième monolithe, donc il y a toujours cette idée d'aller en avant. Et le protagoniste principal du film va trouver le troisième monolithe gigantesque qui flotte dans l'espace et qui va l'amener dans un espèce de trou noir, qui va l'amener dans une espèce de pièce un peu bizarre. Alors je sais pas si elle existe vraiment ou c'est juste son cerveau d'humain qui interprète ça comme ça, comme cette pièce-là. Et voilà, il se transforme en fœtus géant, puis je pose c'est la question que tout le monde se pose. Quoi que c'est, ce gros fœtus qui flotte dans l'espace? Je sais pas. Peut-être que c'est encore une évolution supérieure de l'homme, un surhomme. Il y a des bouquins qui existent, il y en a trois même, donc il y a des suites. Il y a même un deuxième film qui existe, que j'ai pas pu regarder en entier, parce que la qualité du fichier que j'avais chopé était... vraiment pourri. Voilà, c'est un peu moins bon que celui de Kubrick, mais c'est pas pour ça que j'ai pas regardé en entier. Quoi qu'il en soit, je crois qu'un des thèmes, je sais qu'un des thèmes du film, c'est l'échec de l'homme. Donc, même s'il y a ces espèces d'apports de connaissances, sans doute d'une intelligence supérieure, donc une race qu'on ne connaît pas. Qui les aide à avancer, ils arrivent, quoi qu'il en soit, toujours à foirer un peu. Donc voilà, pourquoi il vieillit autant vite, je pense que c'est un effet de mise en scène, et un peu cet endroit métaphysique comme ça, où le temps n'a pas vraiment de logique, je pense que... En tout cas, je me satisfais de cette interprétation. Après 79 visionnages du film.
Ouais, c'est probablement très symbolique aussi.
Ça, c'est sûr et certain. On pourrait en parler des heures, mais je crois que nos cartes mémoire n'ont pas cette contenance.
Du coup, en parlant un peu de ce monolithe qui guide l'humanité à travers différentes évolutions, la prochaine évolution du comp, c'est un nouvel album. Basé justement, t'as vu la transition de
okay, belle transition.
Basé justement sur donc 2001 et tout le projet que vous
exactement,
avez
exactement, ouais.
Je vais laisser Jay en parler.
Bien voulu. Mais... en fait, c'est vrai qu'on va reprendre donc ce qu'on a fait pour le film avec des versions plus efficaces en format vraiment véritablement album. Toujours sans voix. Et puis
très peu. Ah non, c'est vrai que dans les réarrangements il y a 2-3 passages vocaux.
Mais sur la masse,
c'est négligeable.
Pourcentage.
Ça reste tout petit effectivement.
Donc du coup l'idée c'est de retravailler les morceaux pour les adapter à un format album.
Alors ils sont réadaptés effectivement pour pouvoir faire des versions un petit peu plus efficaces, vraiment format album.
Puis ce sera quoi, des morceaux un peu plus format traditionnel, donc 5 minutes, ou ça, il y aura des plages de 25 minutes,
ça reste des morceaux.
Je pense que les réarrangements, il y en a deux types, c'est raccourcir un peu certains passages, Pour le ciné-concert, ça dérange pas que ce soit répétitif. Il y a certains... Le film est très lent, donc je crois que ça accompagne bien le... ce côté ben, assez contemplatif, j'ai envie de dire. Et donc il y a des morceaux qui sont raccourcis et qui sonnent mieux sans le film. Et au contraire, il y a des morceaux qui, notamment un, qui est très très calme pour la version ciné-concert. C'est un morceau à la guitare acoustique qui a une grosse partie très très prog avec du rap et quelqu'un qui crie.
Cool.
Voilà.
Quand même un peu de voix.
Quand même un peu de voix, donc c'est très sympa tout ça. Et du coup, là, vous êtes en train de bosser dessus. Est-ce que vous avez déjà une date de sortie ou une plage un peu... temporel, vous allez sortir cet album ou pas spécialement?
Oui, alors le but c'est de le sortir, ça c'est sûr. On n'a pas vraiment de date, on va gentiment, je pense qu'avant la fin de l'année ce sera bouclé l'enregistrement. En tout cas, c'est le but, avoué. Et ouais, de date de sortie, ça dépend de plusieurs paramètres. Un peu chiant à expliquer ici, mais. Ce sera sans doute en 2018 et je sais pas, fin du printemps, fin de l'été, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, on a bien envie de sortir ça en vinyle, même si il y a des gens autour de cette table qui n'apprécient pas forcément ce format.
La baisse de qualité.
Je ne regarde personne.
Non, hein. Je ne suis pas attaqué. Non.
Mais voilà, ça c'est un petit kiff qu'on a bien envie de concrétiser.
C'est cool. Bah, en tout cas, moi je conseille tous les gens qui n'ont pas vu le spectacle, comme moi, malheureusement, de foncer sur cet album pour voir de quoi il en retourne. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie pour l'accueil dans ce local et pour ce moment de podcast incroyable.
Merci beaucoup. Ben merci. C'est un honneur de commencer ce podcast avec les premiers invités.
Mais pas de soucis, ça fait plaisir.
Oh, j'en ai pleuré toute la nuit.
Allez, salut.
Salut.